Ce matin, je vous invite à. Je vais prier. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur. Qu'elle nous parle à chacune et à chacun ce matin, Seigneur. Vraiment, je te prie que, comme tu dis, elle ne retombe pas à terre sans avoir produit un effet dans nos vies, Seigneur. Merci parce que ta parole est la source de notre foi, Seigneur. Ta parole fortifie notre foi. Et c'est vraiment ma prière ce matin, Seigneur. C'est que tu construises, que tu bâtisses dans nos vies, Seigneur. Que tu fasses grandir cette foi que nous avons en toi, que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Super. Ça va ? Vous êtes réveillés ? Jésus, après avoir été ressuscité, au moment de monter au ciel, il a demandé à ses disciples d'attendre l'Esprit Saint que le Père devait leur envoyer. Et puis c'est à la Pentecôte, alors qu'ils sont réunis, qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et puis ils se mettent à parler différentes langues, et il y a beaucoup parmi le peuple qui sont étonnés par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Et puis s'ensuit une prédication de Pierre, puissante, sur la Seigneurie de Jésus et sa résurrection. Et ce jour-là, environ 3000 personnes vont accepter le message et vont être ajoutés à l'Église. Ce fut le début de la première communauté chrétienne. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Comme nous, en fait, en quelque sorte. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Les premiers chrétiens y rencontraient aussi de l'opposition de certaines autorités juives de l'époque qui ne reconnaissaient pas en Jésus le Messie envoyé par Dieu. Et voilà, c'est dans ce contexte-là que prend place le texte que nous allons lire ce matin. Alors, si vous avez vos Bibles, je vous invite à les prendre. On va lire dans le livre des Actes, le chapitre 3, et on va lire les versets 1 à 20. Alors, ils sont affichés, mais si vous avez vos Bibles papier, je vous encourage à l'ouvrir. Moi, je préfère. Voilà. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, environ 15 heures de l'après-midi. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous. » Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux, au portique appelé de Salomon. Pierre, à cette vue, dit au peuple, « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi fixez-vous des regards sur nous comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé une faveur comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. Waouh! C'est un texte qui me secoue à chaque fois que je le lis. Alors que Pierre et Jean vont au temple, comme ils le faisaient régulièrement, ils passent devant cet homme, boiteux de naissance. Il est écrit plus loin que cet homme était âgé d'environ 40 ans. 40 ans qu'il ne pouvait marcher et que des personnes l'installaient à la porte du temple pour demander l'aumône. 40 ans. Les paralysés étaient le plus souvent exclus du sacerdoce et leur accès au temple était limité. Chaque jour, cet homme était porté à la porte. Nous pouvons donc imaginer que Pierre et Jean étaient déjà passés devant lui, sans le guérir. Et pourtant, ce jour-là, c'est différent. Pierre et Jean fixent le regard sur lui, et Pierre lui dit, « Regarde-nous. Regarde-nous. » L'homme les regarde, s'attendant à recevoir une aumône de leur part, mais Pierre va lui dire cette phrase extraordinaire, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il prend l'homme par la main et le fait lever. 40 ans. Et ce jour-là, l'homme se lève. À l'instant, ses chevilles deviennent fermes. Pourquoi ce jour-là? Qu'est-ce que Pierre avait à donner de si spécial à cet homme? 40 ans. Merci. Je pense qu'on peut entrevoir une réponse au verset 16. Il nous est dit, c'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. C'est la foi en Jésus, dans le grec, en, qui est prononcé, je ne vais pas bien le prononcer, mais je le prononce quand même, diha, avec le génitif autos, signifie précisément par son intermédiaire ou par son moyen. En quelque sorte, c'est la foi par l'intermédiaire de Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement. Je crois que Pierre, à cet instant, il a reçu la foi nécessaire de Jésus pour guérir cet homme. Jésus vivant a agi en lui. Et Pierre a su que c'était le jour, que c'était aujourd'hui. La foi ici, elle n'est pas une force humaine que Pierre a produite par autosuggestion. C'est une foi qui a été suscitée, qui a été transmise et qui a été rendue efficace par Jésus. Romains 10, au verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, c'est un don de Dieu. Elle n'est pas quelque chose que nous devons construire, nous. La foi, elle est donnée premièrement avant même notre réponse. Quand Pierre déclare « Ce que j'ai, je te le donne », je pense que cela signifie sans doute qu'il a reçu à ce moment précis un don de la part de Jésus. La foi pour la guérison. Ça m'a fait penser à un témoignage que notre fils Daniel nous a raconté pendant les vacances. Il avait prévu de partir randonner en haute montagne avec deux amis à lui du boulot, avec un bivouac. Et la météo était très défavorable. Il y avait des orages qui menaçaient. Mais Daniel avait quand même envie d'y aller, mais il avait un de ses collègues qui était paniqué. Déjà, il n'avait jamais fait de randonnée, de bivouac, mais si en plus il y avait un orage. Et quand il a dit, mais si, on y va quand même. Et puis quand ils sont arrivés là-bas, il y avait une auberge. Et puis l'aubergiste est venu vers eux en disant, oh là là, voilà des dangereux. En leur expliquant que c'était risqué. L'orage peut être bref, mais ça peut être puissant. Mais Daniel, à cet instant, il nous disait, il avait vraiment cette conviction qu'il ne pleuvrait pas. Et il a vraiment reçu la foi pour ça. Et avec cette invitation du Seigneur, je veux que tu pries, mais je ne veux pas que tu pries dans ton coin, je veux que tu pries avec tes amis, qui ne sont pas chrétiens, les collègues de boulot. Et donc il les a pris à part, et il a dit, écoutez, si vous voulez, vous savez que je suis chrétien, si vous voulez, je vais prier pour que la pluie ne vienne pas, ou du moins que ça repousse. » Donc ses copains étaient surpris, mais pas opposés, et donc il a prié. Une heure, deux heures, trois heures, il marchait. Et à chaque fois, la météo qui annonçait que la pluie était imminente, repoussait. Il a senti comme un vent qui se levait et ça se repoussait. Trois heures, quatre heures, jusqu'au soir, ils ont eu un ciel bleu. Ils se sont couchés, ils ont bivouaqué, puis en regardant la météo, il devait pleuvoir assez tôt, donc ils se sont dit, bon, on va se lever tôt à 6 heures du matin. Et puis ils se lèvent à 6 heures du matin, et puis là, lever du soleil magnifique, grand ciel bleu, mais toujours la météo qui annonce la pluie, puis ils commencent à redescendre tranquillement. 8 heures, 9 heures, 10 heures, et puis ils arrivent finalement à l'auberge, où un de ses collègues a voulu acheter un souvenir, et puis ils ont voulu boire un bol de lait, et au moment où ils se sont assis, la pluie s'est mise à tomber. Et les collègues de boulot ont été interpellés. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'était une incantation. Ils étaient vraiment impressionnés par ce qui s'était passé. Et je crois que Daniel, à ce moment-là, comme Pierre, à ce moment-là, le Seigneur leur a parlé, leur a donné cette foi pour faire quelque chose d'extraordinaire, pour que Dieu agisse au travers d'eux. La foi qui guérit vient par Jésus. C'est lui qui la donne. Et elle est venue par l'œuvre de Jésus. Jésus a donné la foi pour guérir et Pierre, il a agi en conséquence. La première partie du verset 16 nous dit aussi que c'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme. Il est dit ici que le nom de Jésus est ce qui a rétabli cet homme. Dans le contexte, le nom de Jésus ne se réduit pas à une formule magique. Si vous lisez dans Actes 19, les fils de Séva, des devins qui ont voulu proclamer le nom de Jésus pour faire des guérisons, pour délivrer les gens, et puis qui se sont fait prendre leur propre jeu. Lisez l'histoire, vous verrez que voilà, ça ne suffit pas. Il représente la réalité de Jésus ressuscité, il représente son autorité, il représente qui il est. La foi que Jésus donne à Pierre est efficace parce qu'elle s'appuie sur le nom de Jésus. Quand Pierre ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche, il ne se pose pas en auteur du miracle, mais c'est Jésus qui opère concrètement la guérison à travers lui, au moyen de la foi qu'il vient lui-même de lui donner. Plus loin dans le texte, après que Pierre et Jean ont dû comparaître devant le Sanhédrin, parce que bien sûr, ce qui se passe n'est pas sans conséquence, à cause de ce miracle, et surtout de la prédication de Pierre, on va y venir juste après, ils sont menacés. Ils se retrouvent alors avec les leurs et ils prient. Et ils disent « Seigneur, sois attentif à leurs menaces. » Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main, pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Est-ce que nous prions comme ça, des fois ? Seigneur, étends ta main, pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est Dieu qui agit. Quand Jésus était sur la terre, il nous est dit qu'il faisait les œuvres du Père. Le Père est la source ultime de toute guérison. Donc au travers de Jésus, le Père, il accomplit sa volonté de guérison. Jésus, en accord avec la volonté du Père, donne la foi à Pierre. Pierre reconnaît que le moment est venu pour cet homme d'être guéri. Et par la foi qui lui a été donnée, il prononce la parole de guérison au nom de Jésus. Et c'est Dieu qui reçoit les louanges. Des louanges abondantes et exubérantes. Alors la foule est stupéfaite par ce qui vient de se passer. Et elle accourt vers Pierre et Jean et nous est dit que Pierre leur répond parce qu'il voit leur stupeur, il voit leur interrogation et puis ils sont impressionnés. Enfin, vous imaginez, 40 ans que cet homme ne marchait pas, il le connaissait depuis qu'il était tout enfant, et là, il le voit marcher, c'était un miracle qui était indiscutable, Et ils étaient vraiment stupéfaits. Et Pierre réagit parce qu'il voit bien ce qui est en train de se passer. Il les regarde eux et il leur dit « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous ? Comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme. » Comme nous l'avons vu, ce miracle n'est pas une œuvre humaine, mais une œuvre de Dieu. Dieu, dans sa grâce, choisit de nous rendre participants à son œuvre, et ça, c'est extraordinaire. Et cela ne dépend pas de nos capacités, cela ne dépend pas de notre niveau de piété. Dieu, il utilise des hommes et des femmes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires, pour que la gloire lui revienne à lui seul. Et ça, si vous prenez les Écritures, vous le lisez tout au long des Écritures. Dieu utilise des hommes et des femmes ordinaires pour faire des choses extraordinaires. J'aimerais pouvoir vous le dire à chacun d'entre vous, nommément. Peut-être il y en a parmi nous qui n'osent pas prier pour les autres au travail ou dans leur famille, ou après le culte, parce que vous vous dites « Je ne suis pas assez saint, je n'ai pas assez jeûné, cette semaine j'ai douté, plein d'autres raisons. » Mais Pierre, il dit « Ce n'est pas votre sainteté qui guérit, ce n'est pas votre performance spirituelle qui guérit, c'est le nom et la foi opérée par Jésus. » Dieu, il utilise des gens ordinaires avec un sauveur extraordinaire. Et il y a peut-être des boiteux devant lesquels vous passez chaque jour, depuis des années. Des personnes qui souffrent, des personnes qui sont éloignées de la foi de Dieu depuis des années. Ou des choses peut-être pour lesquelles vous vous sentez appelé, mais que vous n'accomplissez pas encore. Et je crois fermement que le Seigneur, il veut donner la foi. Il veut nous donner, il veut vous donner la foi pour ces personnes. Il veut vous donner la foi pour ces choses. Alors que nous venons à lui pour l'adorer et écouter sa parole, comme on l'a fait ce matin, je crois fermement que le Seigneur, il veut faire grandir la foi dans notre assemblée. Sylvain avait donné une parole prophétique il y a quelque temps, lors d'un culte. Il avait vu l'image d'un entonnoir posé à l'envers. Et puis cette pensée que Dieu nous appelait à développer l'adoration. Et puis il avait lu ce verset, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Dieu désire que nous fassions grandir le don de foi. Et puis il avait eu la vision de trois gros rochers blancs où Dieu fortifie la foi de son peuple. Et ça ouvrait la porte à des miracles et à des prodiges. Amen ? J'espère, hein ? Et moi je pensais que ces trois rochers, quand j'ai entendu la parole, pouf ! Je me suis dit, ça y est, c'est des épreuves qui vont nous tomber dessus. Mais il y a des miracles et des prodiges. Voilà. Et bon, je me suis dit, bon alors qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça peut être? Mais Claudie, mon épouse, merci ma chérie, m'a très justement fait remarquer que ces rochers pouvaient être plutôt représentés l'inébranlabilité, la puissance de Dieu le Père, de Dieu du Fils et du Saint-Esprit. Les trois qui coopèrent ensemble. Dieu le Père qui déverse son esprit sur l'Église pour la conduire dans la vérité, pour rappeler les paroles de Jésus, pour distribuer les dons. Jésus qui, par sa résurrection, atteste qu'il est l'envoyé de Dieu, le serviteur, le saint, le juste, et qui fait naître en nous, par sa parole, la foi, pour qu'en son nom, le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu le Père accomplisse des guérisons, des signes et des prodiges. Tout un travail d'équipe. Vous n'êtes pas seul. Et c'est une bonne nouvelle, libératrice, et je veux que cette parole nous libère ce matin. Cela ne dépend pas de nos capacités. C'est Dieu qui agit et qui choisit d'agir au travers de nous. C'est Dieu qui donne la foi par sa parole. Et il nous encourage à la connaître, à la méditer, jour et nuit, à lui faire confiance. Attendons-nous à recevoir de lui la foi. C'est ce que Dieu veut faire au travers de son Église. 1 Corinthiens 12 nous dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Amen. Je vous ouvre une petite parenthèse pour souligner la nuance entre la foi salvatrice et le don de foi. La foi pour le salut, c'est celle qui est donnée à tout enfant de Dieu qui nous permet de croire que Jésus est mort pour nos péchés. C'est Jésus qui illumine les yeux de notre cœur, qui fait tomber les écailles de nos yeux, qui nous fait réaliser qui il est, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité. Et c'est ce qui nous permet de nous confier en sa grâce, même au milieu des doutes, même au milieu de nos faiblesses ou de nos peines. Ça, c'est la foi pour le salut. Et puis, il y a le don de foi. Lui, ce n'est pas un état permanent ni un niveau de piété supérieur. C'est une impulsion souveraine, je crois, de l'Esprit Saint pour un instant précis. Ce jour-là, devant la porte du temple, Pierre n'a pas fabriqué de la foi. Hein ? Par autosuggestion, comme je l'ai dit. Mais Jésus, par l'Esprit Saint, a déposé en lui une certitude divine et soudaine. Aujourd'hui, cet homme marche. Aujourd'hui, cet homme marche. Regarde-moi. Regarde-moi, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Et non seulement il dit lève-toi, il marche, mais il le prend par la main. Et il le fait lever. C'est un peu, si je voulais donner une image, certes imparfaite, mais c'est comme si la foi du salut, c'était comme un bateau. On a hissé les voiles, et ce bateau, il navigue sur l'eau, et il reste orienté vers un cap. Le cap, un port qui nous attend tous, l'éternité avec Christ. Ça, c'est la foi du salut. On est sur ce bateau et on navigue et on fixe le cap. Et parfois, le don de foi, c'est comme une bourrasque soudaine, puissante de l'esprit qui vient gonfler la voile à un moment précis pour franchir un obstacle qui paraissait infranchissable, faire quelque chose qui paraissait impossible. Et ça souffle et puis d'un coup... Pff. Un homme de foi a très bien résumé cela. Il a dit... Vous pouvez aller aussi loin que la foi ordinaire vous le permet, mais arrive un moment où vos forces s'arrêtent. C'est là que l'Esprit intervient et vous confère le don de foi. Vous ne cherchez plus à croire, vous savez simplement que la chose est déjà faite. Waouh. Dieu veut faire grandir la foi dans notre communauté. Ça nous a été prophétisé à plusieurs reprises, dans plusieurs rencontres. On prie pour ça entre anciens. Pour que Dieu fasse grandir la foi. Et je crois fermement qu'il va le faire. Le miracle, ici, est un signe qui pointe vers la réalité de Jésus-Christ. C'est un signe qui pointe vers la réalité de Jésus-Christ. Il est vivant. Il est le Messie envoyé par Dieu. Ça me fait penser à la réponse que Jésus a faite à la question de Jean-Baptiste. Es-tu celui que nous attendons ou devons-nous en attendre un autre ? Et Jésus va faire apporter cette réponse à Jean-Baptiste. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le miracle témoigne de l'amour de Dieu. Nous voyons dans ce texte que Pierre, il va s'appuyer sur cette guérison pour faire quoi ? Pour prêcher l'Évangile et inviter ses auditeurs à reconnaître que Jésus est l'envoyé de Dieu et les inviter à la repentance. Cette guérison, elle a quelque part ouvert un boulevard à la proclamation de l'Évangile. Frères et sœurs, le monde nous regarde, attendant de voir ce qu'on a à lui donner, ce que nous avons à lui donner. Le monde nous regarde. Et il y a une chose bien plus précieuse que l'or, que l'argent. C'est Christ, c'est Jésus. Paul nous dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler. Et c'est un peu plus loin qu'il dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La parole de Christ, elle doit être partagée. Elle doit être proclamée, elle doit être annoncée. Profitons-nous du miracle, profitons-nous des guérisons, parce que des guérisons, on en a vu, on en a eu. On a prié peut-être pour quelqu'un de notre famille ou qu'un collègue de travail, et puis quelque chose s'est passé. Avons-nous saisi l'opportunité pour parler de Jésus ? La bonne nouvelle de l'Évangile doit être prêchée. Pierre, il va s'adresser aux Juifs, aux Israélites, il va commencer à dire « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, en d'autres termes, votre Dieu. » Puis il va déclarer à plusieurs reprises qui est vraiment Dieu, qui est vraiment Jésus, pardon. Au verset 13, il va dire « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. » Jésus est le serviteur du Seigneur. Ésaïe 52, verset 13 nous dit « Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. » Et il fait référence au serviteur. Et puis il continue, il dit « Dieu, ce serviteur l'a glorifié. Il lui a donné une place de gloire suprême dans tout l'univers. » Vraiment, il n'y a pas plus top, à sa droite. Et puis il continue, il va dire au verset 14, vous avez renié le saint, le juste. Jésus, ce n'était pas un criminel, il a été trouvé sans péché. Et il en est question aussi dans le livre d'Ésaïe, le saint d'Israël. Et il parle également de Dieu comme le juste. Et en appliquant cette description à Jésus, Pierre, il indique peut-être quelque part la divinité de Christ. Et puis il continue au verset 15, vous avez fait mourir le prince de la vie. Le terme grec peut être aussi traduit par l'auteur de la vie. Jésus est le co-créateur de la vie avec Dieu le Père. Il est la source de toute vie spirituelle que Dieu a ressuscité des morts. Quelle ironie. Ils ont fait mourir l'auteur de la vie. Et puis il continue, Dieu a ressuscité d'entre les morts. Dieu a confirmé ce Jésus en le ressuscitant des morts. Jésus est le serviteur glorifié, le saint, le juste, l'auteur de la vie, ressuscité par Dieu d'entre les morts. Les apôtres et beaucoup d'autres avaient vu le Seigneur ressuscité. Ils en avaient été les témoins directs. Ils savaient ces choses à propos de Jésus avec certitude, sans l'ombre d'un doute, avec une conviction profonde. Et puis en face de ces déclarations, Pierre il va porter plusieurs accusations afin de montrer quelque part à ses auditeurs combien ils sont éloignés de la vérité et à quel point ils ont déshonoré la valeur de Jésus. Il leur dit « Ce Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate qui avait jugé bon de relâcher, même Pilate n'avait rien trouvé à lui reprocher et il voulait le libérer. Ils ont refusé de voir la vérité en face et de voir la vraie valeur de Jésus. Vous avez renié le saint, le juste. Vous avez troqué le saint et le juste contre un meurtrier. Vous avez préféré qu'on vous donne Barabbas. » Et pour Pierre, quand même, je me dis, ça a dû, quand il a prononcé ces mots, ça a dû lui faire quelque chose parce que lui aussi a renié Jésus. Mais il a prononcé le mot. Il l'expose, il ne le cache pas. Et puis il continue, il dit, vous avez fait mourir le prince, l'auteur de la vie. Il vous a donné la vie et vous l'avez fait mourir. Et Pierre, au travers de son discours, il dénonce l'absurdité du rejet de Jésus. L'absurdité du rejet de Jésus, c'est ôter la vie à celui qui la donne. Mais Pierre, il a une bonne nouvelle pour eux. On l'a lu au verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. » Cette bonne nouvelle, elle est pour nous aussi aujourd'hui. Et j'avais envie de dire, si ce matin tu es de ceux qui ont rejeté Jésus, qui il est vraiment, entends cette parole de Pierre pour toi ce matin. Et j'ai envie de te dire, réalise l'absurdité qu'est de rejeter Jésus. Demande pardon et choisis, décide de le suivre pour que tes péchés soient effacés et que tes temps de rafraîchissement, des temps de bénédiction, des temps de rafraîchissement viennent de la part de sa part dans ta vie. Ce matin, si tu te sens paralysé par le péché ou la culpabilité, le Seigneur te dit, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Quand on lit un peu plus loin dans le livre des Actes, au chapitre 4, verset 4, on dit que beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Gloire à Dieu. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. C'était 3 000 le premier discours, là, 5 000. Dieu a agi par son esprit dans les cœurs au travers de la guérison de l'homme boiteux et de la prédication de Pierre. Le monde rejette Jésus et ne veut pas reconnaître en lui le serviteur envoyé et glorifié par Dieu, le saint, le juste, l'auteur de la vie, celui que Dieu a ressuscité. Et je crois que comme les premiers chrétiens, j'enfonce des portes ouvertes, mais je le dis quand même, nous devons porter le message de Jésus, qu'il est bien celui qu'il est, Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons porter ce message en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, et vers ceux vers qui le Seigneur nous envoie. Il y aura des signes, il y aura des prodiges, il y aura des miracles qui vont accompagner notre proclamation de l'Évangile. Ce seront des indicateurs puissants que Jésus est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Le Seigneur, il veut nous rappeler en ce début d'année qu'il est Dieu et qu'il veut manifester son amour, sa grâce, sa puissance au travers de son Église. Il nous appelle, et ça je le crois fermement, à grandir dans la foi, à rechercher sa présence et à demander ses dons. Demandons ses dons, prions, demandons la foi. Demandons les miracles, comme ces premiers chrétiens qui étaient réunis ensemble et qui priaient. Donne-nous le courage d'annoncer ta parole. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Fais-le pour qu'il se produise des miracles, des prodiges et des signes dans le puissant nom de ton serviteur Jésus. Et alors qu'il va le faire, saisissons les opportunités qu'il nous donne pour partager l'évangile autour de nous. C'est ce à quoi nous sommes appelés, à aller partout faire des disciples. Donc j'aimerais terminer en vous disant, attendez-vous à prononcer ces mots. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Amen. Soyez fortifiés, soyez bénis.